Du lundi au vendredi, toute l'actu des réseaux.
Nintendo est une des entreprises les plus connues au monde, un leader du marché du jeu vidéo. Les inventeurs de Mario, le plombier italien amateur de champignons. Et pourtant, Nintendo existe depuis 1889 et n'a commencé à faire de l'électronique qu'à la fin des années 70. Avant ça, il y avait des jouets, des soupes de nouilles en sachet, des compagnies de taxi, des maisons closes et des cartes à jouer pour les parties de poker clandestines, des Yakuza. Nintendo, c'est comme un chat. Mystérieux, secret, il a plusieurs vies et retombe toujours sur ses pattes. Arnaque, crime et putaclic, les mille vies de Nintendo.
L'histoire de Nintendo commence en 1889 à Kyoto, durant la période de l'Empire Meiji. Cette année-là, dans l'ancienne capitale impériale, Fusajiro Yamauchi réalise son rêve. Il ouvre sa propre boutique, Nintendo Kopai, qui veut dire « carte à jouer Nintendo ». Le jeune entrepreneur, ancien ouvrier du bâtiment passionné de graphisme, propose des cartes de jeu dessinées à la main par lui-même. Une activité noble qui a pourtant un gros inconvénient. Au Japon, à cette époque-là, les jeux de cartes sont interdits, mais Fusajiro a un plan.
Continuez Jackson, vous m'intéressez.
Le jeune artisan ne dessine pas des paquets d'as de trèfle ni des dames de cœur. Ces cartes occidentales utilisées par les clans de gangsters Yakuza dans des tripots de jeux d'argent clandestins. Non, Nintendo Kopai propose des cartes de type Hanafuda, jeu ancestral japonais avec des cartes au motif de fleurs. Il ne veut pas être mêlé à la criminalité. Sauf qu'avec le nombre de cartes par paquet et les types de motifs, il est très facile d'utiliser le jeu d'Hanafuda pour jouer à des jeux de casino en toute discrétion. Brelant de fleurs de cerisier contre foule des orchidées, ni vu ni connu chambrouille. Et le plus gros client de Nintendo Kopai, eh bien, ce sont les clans Yakuza. Est-ce que Fusajiro avait pensé son coup? On ne sait pas.
Bien joué, Joe.
Nintendo Kopai a tellement de succès que très vite, il est impossible de tout faire à la main. Car les Yakuza, pour éviter la triche, changent de paquet à chaque partie. Donc, Fusajiro embauche des assistants, puis produit en masse dans des ateliers et fournit des marchands dans d'autres villes comme Osaka. Il produit sur du papier de moins bonne qualité, mais les ventes ne baissent pas. En 1907, lorsque les cartes à jouer occidentales sont autorisées, Nintendo Kopai domine le marché, le numéro 1, jusqu'à la mort de Fusajiro en 1929.
Bizarre.
Faisons un bond en avant. Nous sommes maintenant dans les années 50. Hiroshi Yamauchi, le petit-fils du fondateur de Nintendo, a pris les rênes à 21 ans. Lors d'un voyage aux États-Unis, il a une révélation. Il découvre Disney, son univers féerique, ses personnages iconiques comme Blanche-Neige, Cendrillon, Bambi. Il a un rêve, faire des jeux de cartes à l'effigie de ses héros d'enfants. Mais pour ça, il faut négocier avec Mickey, et c'est pas facile. Les premières années sous sa direction seront chaotiques. Pour devenir une entreprise internationale et assurer la survie de son business, Hiroshi veut diversifier les activités et les revenus. Il renomme l'entreprise Nintendo Kopai Nintendo et se met à faire des nouilles, des compagnies de taxi, et il se murmure même que Nintendo posséderait des maisons closes dans des quartiers chauds. On est loin des sept nains.
Tu vois ce que je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire.
En 1959, Hiroshi signe un accord avec Disney. Ils vont distribuer des jeux de cartes pour enfants qui adorent ça. C'est un franc succès. Mais le patron de Nintendo le sait. Dépendre uniquement d'un produit est un peu risqué. Nintendo a besoin d'idées. Et puis, un jour, au milieu des années 60, Hiroshi voit un de ses employés jouer avec un objet qu'il n'a jamais vu. Une sorte de bras mécanique qui s'étend au bout. Il y a une pince qui permet d'attraper des choses à distance. Il convoque l'ouvrier dans son bureau.
In my office. Now!
Gunpei Yokoi est en bas de l'échelle chez Nintendo. Il bosse à la chaîne et passe le balai. Quand le patron veut le voir, il est persuadé qu'il va se faire virer. Mais non. Ce qui intéresse le boss, c'est son bras mécanique, là. Il veut savoir ce que c'est. Gunpei répond que c'est un bidule qu'il a fabriqué, il aime le bricolage. C'est un peu un jouet, quoi. Et ce joujou va devenir le best-seller de Nintendo. Il s'appelle la main magique et tous les gosses vont s'amuser avec. De simple ouvrier, Gunpei va devenir responsable du développement produit. Nintendo est officiellement fabricant de jouets. Ils vont en faire d'autres, des talkie-walkie, des robots aspirateurs et même un premier jeu électronique. Nous sommes en 1977.
À cette époque-là, aux États-Unis, les jeux d'arcade ont le vent en poupe. Les gamins américains vont dépenser leurs piécettes pour jouer à Space Invader ou à Pac-Man tout l'après-midi. C'est tellement lucratif qu'une centaine de constructeurs se battent pour une part du gâteau des jeux vidéo. Et après quelques essais infructueux, Nintendo entre dans la danse avec leur premier banger. Donkey Kong, un gros singe, une princesse, un héros à moustache. Nintendo est dans le game du jeu électronique.
Okay. Hey, let's go.
Début des années 80, la folie des jeux vidéo arrive dans les maisons. Atari, le leader de l'électronique, propose des consoles de salon, bientôt suivies par des centaines d'autres constructeurs. Sauf que Nintendo, eux, ils veulent se concentrer uniquement sur les salles d'arcade. Une décision qui va être plus judicieuse que prévu.
Entre 83 et 85, le secteur vidéoludique se casse la gueule de manière monumentale. L'offre est pléthorique, tout le monde propose des consoles, des jeux torchés à la va-vite, trop faciles, moches, plein de bugs, plus personne n'en veut. Atari, le leader du secteur qui a fabriqué 4 millions de copies de son jeu inspiré du film E.T., n'en vend qu'un tiers et fait cramer tout le stock restant avec ses consoles dans le désert du Nouveau-Mexique. En 1985, on estime que le jeu vidéo, c'est totalement finito.
Et c'est justement dans ce contexte apocalyptique que Nintendo décide de sortir son ordinateur familial, le Family Computer, nommé le Nintendo Famicom, une console de salon avec des jeux maison, qui va sortir outre-Atlantique sous le nom de Nintendo Entertainment System, la NES, ou encore la Nintendo. Et son jeu, qui reprend le personnage moustachu de Donkey Kong, au Japon on l'appelle Jumpman, mais en Amérique on le connaîtra sous le nom de
It's me, Mario.
Le coup de génie de Nintendo, c'est de ne pas vendre sa NES comme une console de jeu, mais un jouet pour enfants avec des héros colorés et attachants, comme chez Disney, qui font partie d'un univers multiple. Mario est rejoint par son frère, Luigi, et puis il devient Super Mario. En 86 et 87, la NES est le cadeau numéro 1 sous les sapins américains.
En fait, la NES regroupe toutes les leçons de business tirées par Nintendo depuis 1889. Proposer un produit unique dans un marché sans concurrent et un marketing malin qui cible les joueurs et les enfants. Les cartes à jouer sont remplacées par des cartouches de jeux vidéo.
Dès lors, Nintendo va cultiver cette différence. Difficile de perdre face à la concurrence quand ils ne jouent pas dans la même compétition que nous. Car dans les années 90, lorsque démarre la guerre des consoles avec l'essor des autres mastodontes japonais comme Sega, puis PlayStation, Nintendo va frapper un grand coup en tablant sur la Game Boy inventée par l'ancien ouvrier Gunpei Yokoi.
Pendant ce temps, Sega va se perdre petit à petit dans la course au graphisme. Nintendo va aussi connaître des échecs, mais se concentrera sur le développement de marques. Mario, Zelda, Donkey Kong, Kirby, Pokémon. Des univers uniques et addictifs, accessibles uniquement sur des machines Nintendo, faites parfois pour jouer à 4, comme la 64, la GameCube. Et puis il y a les versions portables, moins chères, mais avec les mêmes jeux. Et une communauté de fanatiques mondiales qui naît. Ils ont peut-être une autre console, mais ils ont une Nintendo.
Et dans les années 2000, alors que PlayStation et Microsoft entrent dans une bataille technologique, Nintendo sort la Wii. Des graphismes basiques, des jeux ultra simples, enfantins. Et pourtant, tout le monde se l'arrache, car c'est avant tout un jouet pour toute la famille. Nintendo a créé son monde à part et ils sont les meilleurs dans ce qu'ils font. Et même si parfois c'est critiquable, fermé, pas très fair-play, ils restent au sommet du jeu.
Dans une industrie du jeu vidéo qui aujourd'hui mise tout sur le dématérialisé, le cloud gaming, le jeu mobile qui mange toujours plus de parts de marché, Nintendo, eux, ils prennent le contre-pied. Ils jouent leur jeu et personne ne le fait mieux. Nintendo, c'est un peu comme le Real Madrid. C'est pas toujours les meilleurs, mais ils sont tout le temps dans le dernier carré. Ils iront ailleurs quand ils seront sûrs qu'ils sont les seuls sur le marché.
Réseau.